Le défi porté par Montaigne à la raison humaine est victorieusement relevé. Les pièces que l'apologie de Raymond Sebond prenait plaisir à entrechoquer les unes contre les autres sont mises en place, toutes prêtes à entrer dans l'ordonnance d'un édifice solide et harmonieux. Mais il importe de remarquer que Descartes a dû traverser le pyrrhonisme afin de se rendre capable de lui répondre. Comment, en effet, opérer le passage des apparences illusoires des sens ou de l'imagination à la vérité de l'entendement si on a commencé par écarter toute donnée qui vient du dehors? Le doute universel est la condition première de l'avènement d'une physique rationnelle. Par exemple, écrit Descartes dans sa troisième méditation, je trouve dans mon esprit deux idées du soleil toutes diverses. L'une tire son origine des sens, par laquelle il me paraît extrêmement petit. L'autre est prise par des raisons de l'astronomie, c'est-à-dire de certaines notions nées avec moi, ou enfin y formées par moi-même de quelque sorte que ce puisse être, par laquelle il me paraît plusieurs fois plus grand que toute la Terre. Pour que la seconde idée soit retenue comme vraie, il faut bien que la première ait été mise en doute, et ce doute implique la réalité d'un moi qui prend conscience de soi dans l'affirmation de son existence, cogito ergo sum. Démarche fondamentale qui cependant ne résout pas tout le problème, qui bien plutôt en révèle la gravité. De quel droit ce moi, s'il n'est que mon moi, se prévaudra-t-il pour franchir les bornes de l'individualité à laquelle il est réduit et s'ériger en sujet universel qui supporte le système des choses? Est-ce qu'ici Descartes ne se trahit pas lui-même par la hâte et l'aisance avec lesquelles il déroule, en se tournant vers soi, les longues chaînes de raisons qui constituent la mathématique pure et dont le modèle se transmet aux relations d'étendue et de mouvement en vue d'expliquer la jeunesse de notre monde? De fait, plus Descartes insiste sur l'origine tout intérieure et le caractère tout intellectuel de cette notion d'espace pur à laquelle il s'appuie en tant que géomètre, plus il rend difficile à comprendre le passage à l'espace réel, qu'il appartient aux physiciens d'envisager. Telle est la difficulté à laquelle se heurte le rationalisme de Descartes, et où il reconnaît lui-même au cours de sa polémique avec Gassendi, l'objection des objections. Il en triomphe par un détour métaphysique et même religieux qui réclame un approfondissement de la réflexion sur soi, qui entraîne ce qu'on pourrait appeler un sursaut d'intuition. La pulsion née du cogito ne s'épuise pas dans l'ergo sum. Il y a en moi plus que le moi. Car j'ai en quelque façon premièrement en moi la notion de l'infini que du fini, c'est-à-dire de Dieu que de moi-même. Et cette déclaration est commentée d'une façon frappante par une lettre de mars 1637, à propos du résumé de métaphysique contenu dans la quatrième partie du discours de la méthode. En s'arrêtant assez longtemps sur cette méditation, on acquiert peu à peu une connaissance très claire et, si j'ose ainsi parler, intuitive de la nature intellectuelle en général, l'idée de laquelle, étant considérée sans limitation, est celle qui nous représente Dieu, est limitée, et celle d'un ange ou d'une âme humaine. Il convient d'insister sur ce point que l'intuition de l'infini, en tant que réalité originellement simple et positive, ne surgit pas tout d'un coup. Elle est directement liée à l'expérience du mathématicien qui se sent toujours capable de poursuivre le progrès de ses spéculations, qui ne peut pas ne pas concevoir l'espace autrement qu'indéfiniment extensible comme il est indéfiniment divisible. L'homme ne va donc pas à Dieu en supposant, par-delà le spectacle de la nature, la causalité d'une puissance surnaturelle, mais en prenant conscience de son aptitude à l'intelligence de la nature. Ce qui implique, de toute évidence, la présence intime d'un principe essentiellement spirituel, Dieu ne peut être vu ni touché. L'intuition de l'infini, qui met en connexion immédiate pensée humaine et pensée divine, forme l'armature des arguments par lesquels Descartes démontre l'existence de Dieu et qui consiste à retrouver les mouvements successifs du cogito ergo sum, transposés maintenant sur le plan de l'absolu. Le cogito, sous sa première apparence, pouvait s'interpréter comme le simple enregistrement d'un fait psychologique. Mais il suffit de me rendre compte des vicissitudes que traverse ma vie intérieure pour apercevoir la nécessité qu'elle se dépasse. Car comment serait-il possible que je puisse connaître que je doute et que je désire? C'est-à-dire qu'il me manque quelque chose et que je ne suis pas tout parfait si je n'avais au moins aucune idée d'un être plus parfait que le mien, par la comparaison duquel je connaîtrais les défauts de ma nature. Sum, je suis. Et le fait de mon existence suppose qu'a été franchi effectivement le passage du néant à l'être. Or, puisque j'ai le sentiment d'être imparfait, je suis obligé d'avouer que je ne suis pas l'origine de mon être. Le don de perfection est inséparable du pouvoir de création. Si j'eusse été seul et indépendant de tout autre, en sorte que j'eusse eu de moi-même tout ce peu que je participais de l'être parfait, j'eusse pu avoir de moi, par même raison, tout le surplus que je connaissais me manquer, et ainsi être moi-même infini, éternel, immuable, tout connaissant, tout puissant, et enfin avoir toutes les perfections que je pouvais remarquer être en Dieu. L'existence absolue se dégage ainsi du Sum, comme la pensée infinie se dégage du cogito. Entre celle-ci et celle-là, une liaison intime s'établit par la preuve connue depuis Kant sous le nom d'argument ontologique. Dieu se définit l'être tel qu'il suffit de concevoir son essence pour n'avoir aucun doute de son existence. L'adéquation du mouvement de la pensée et de la réalité de son objet, qui emprunte ce modèle à la correspondance des équations et des courbes, s'accomplit dans le Dieu cartésien. Et c'est par lui qu'elle redescend au domaine de la physique et de la biologie. Il y a un Dieu qui est auteur de tout ce qui est au monde et qui, étant la source de toute vérité, n'a point créé notre entendement de telle nature qu'il se puisse tromper au jugement qu'il fait des choses, dont il a une perception fort claire et fort distincte. La distinction et la clarté de la notion d'étendue suffiront donc pour nous assurer que l'univers, envisagé à travers ses manifestations inorganiques ou organiques, demeure en sa substance radicalement hétérogène à l'esprit, et que pourtant, il se révèle dans ses modalités entièrement transparent à l'esprit qui, appuyé sur les perfections infinies du Créateur, et notamment sur la constance de sa volonté, pourra édicter a priori les lois exactes de la mécanique, suivant lesquelles la nature agit en tout. Dès lors, il est permis de dire que science et religion se prêtent un mutuel appui, à la condition seulement que l'une et l'autre soient replacées dans une perspective de raison que les siècles de l'Antiquité ou du Moyen-Âge n'ont pas su fixer. Encore que toutes les vérités que je mets entre mes principes aient été connues de tout temps de tout le monde, il n'y a toutefois eu personne jusqu'à présent, que je sache, qui les ait reconnus pour les principes de la philosophie, c'est-à-dire pour tels qu'on en peut déduire la connaissance de toutes les autres qui sont au monde. En ce sens, Descartes légitime le scepticisme et le pessimisme des essais, par qui l'histoire fait en quelque sorte justice de l'histoire pour donner à l'esprit humain le moyen de déboucher dans l'éternité. L'ironie agnostique de Montaigne est la meilleure préparation à une intelligence directe de Descartes. Ceux qui ont le moins appris de tout ce qui a été nommé jusqu'ici philosophie sont le plus capables d'apprendre la vraie. Comment se soucier encore des disputes sur le souverain bien et des 288 sectes auxquelles faisait allusion l'apologie de Raymond Sebond, alors que, considéré par la raison naturelle sans la lumière de la foi, ce souverain bien se définit en toute évidence comme la connaissance de la vérité par ses premières causes, c'est-à-dire la sagesse, dont la philosophie est l'étude. Dans le passage de la spéculation à la pratique, la sagesse cartésienne se développera sur deux plans, correspondant aux deux conceptions du moi qui recueillent la sixième méditation. Ici, mon esprit, c'est-à-dire moi-même, en tant que je suis seulement une chose qui pense, et là, moi-même tout entier, en tant que je suis composé du corps et de l'âme. Observons que cette composition de l'être entier se réduit à une simple rencontre. Il n'y a pas de place dans les cadres de la métaphysique cartésienne pour ce qui constituerait, à proprement parler, l'union de l'âme et du corps. Aussi bien, s'introduit-elle dans le système sous forme de notions primitives que rien ne précède, que rien non plus ne justifie, contraignant le philosophe au désaveu brutal et humilié de cela même qui était la raison d'être et qui faisait la sûreté de sa méthode. Les choses qui appartiennent à l'union de l'âme et du corps ne se connaissent qu'obscurément par l'entendement seul, ni même par l'entendement aidé de l'imagination, mais elles se connaissent très clairement par les sens. Entre les deux substances dont la séparation demeure intacte, Descartes se bornera donc à décrire des rapports de passion et d'action, marqués du signe de la relativité, susceptibles par conséquent de se retourner sur eux-mêmes. Selon la hauteur où l'homme porte sa propre vie, il apparaîtra, tantôt que les mouvements du corps donnent naissance aux passions de l'âme, tantôt que les décisions de l'âme commandent les mouvements du corps. La médecine devient alors un point de départ pour la morale, mais une médecine qui n'a rien de commun avec ce que Montaigne désignait de ce nom, qui se relie à une analyse des phénomènes de circulation et d'innervation par laquelle Descartes est, dans l'histoire, le précurseur général de la psychophysiologie. Quant au but, il est bien celui que les essais ne cessent de poursuivre, la conquête de l'autonomie spirituelle. Jamais leur aspiration profonde ne s'est mieux manifestée que dans les efforts de Descartes pour rendre quelque vigueur d'âme à la princesse Élisabeth. Il n'y a point d'événement si funeste, ni si absolument mauvais au jugement du peuple, qu'une personne d'esprit ne les puisse regarder de quelque biais qui fera qu'il lui paraît trop favorable. Et votre Altesse peut tirer cette consolation générale des disgrâces de la fortune qu'elles ont peut-être beaucoup contribué à lui faire cultiver son esprit au point qu'elle a fait. C'est un bien qu'elle doit estimer plus qu'un empire. Les grandes prospérités éblouissent et enivrent souvent de telle sorte qu'elles possèdent plutôt ceux qui les ont qu'elles ne sont possédées par elles. Et bien que cela n'arrive pas aux esprits de la trempe du vôtre, elles leur fournissent toujours moins d'occasions de s'exercer que ne font les adversités. Et je crois que, comme il n'y a aucun bien au monde excepté le bon sens qu'on puisse absolument nommer bien, il n'y a aussi aucun mal dont on ne puisse tirer quelque avantage ayant le bon sens. Pour relier les moyens aux fins, dans ce domaine où l'on parvient à s'instruire, en usant seulement de la vie et des conversations ordinaires, Descartes se retrouve encore à l'école de Montaigne, comme du temps où il ne faisait autre chose que rouler ça et là dans le monde, tâchant d'y être spectateur plutôt qu'acteur en toutes les comédies qui s'y jouent. Mais le conseil de réserve prudente s'accompagne d'un héroïque parti pris d'optimisme, témoin entre autres cette déclaration de janvier 1646. Ce qui m'a fait dire qu'il y a toujours plus de bien que de maux en cette vie, c'est le peu d'état que je crois que nous devons faire de toutes les choses qui sont hors de nous et qui ne dépendent point de notre libre arbitre, à comparaison de celles qui en dépendent, lesquelles nous pouvons toujours rendre bonnes lorsque nous en savons bien user. Et nous pouvons empêcher par leurs moyens que tous les maux qui viennent d'ailleurs, tant grands qu'ils puissent être, n'entrent plus avant en notre âme que la tristesse qui excite les comédiens quand ils représentent devant nous quelques actions fort funestes. Mais j'avoue qu'il faut être fort philosophe pour arriver jusqu'à ce point. Assurément, c'est dans un tel sens que les essais entendent la philosophie. Mais ce détachement dont Descartes se plaît à souligner le caractère encore esthétique ne procure qu'une victoire stérile tant que le jugement se referme sur lui-même en son expression formelle sans atteindre une matière réelle de connaissance et d'action. Dans le cartésianisme, la raison s'apparente à l'infini. Le système de Copernic, occasion de sarcasme pour Montaigne, arrache la créature à son centre naturel d'égoïsme en lui interdisant de s'imaginer désormais qu'au-delà des cieux, il n'y a rien que des espaces imaginaires et que tous les cieux ne sont faits que pour le service de la terre, ni la terre que pour l'homme. De même que l'algèbre, par sa suffisance à soi-même, est la clé de toutes les autres sciences, de même, du point de vue pratique, la vraie générosité, qui fait qu'un homme s'estime au plus haut point qu'il se peut légitimement estimer, est comme la clé de toutes les autres vertus. Elle ouvre la voie pour une progression méthodique qui, parallèlement à la construction du système du monde, élèvera l'édifice de l'humanité en le déduisant de la volonté d'amour, c'est-à-dire du consentement par lequel on se considère dès à présent comme joint avec ce qu'on aime, en sorte qu'on imagine un tout duquel on pense seulement être une partie, et que la chose aimée en est une autre. Et Descartes précise, bien que chacun de nous soit une personne séparée des autres, et dont, par conséquent, les intérêts sont en quelque façon distincts de ceux du reste du monde, on doit toutefois penser qu'on ne saurait subsister seul et qu'on est, en effet, l'une des parties de l'univers, et plus particulièrement encore, l'une des parties de cette terre, l'une des parties de cet État, de cette société, de cette famille, à laquelle on est joint par sa demeure, par son serment, par sa naissance. Et il faut toujours préférer les intérêts du tout, dont on est parti, à ceux de sa personne en particulier. Toutefois, ne peut s'empêcher d'observer le mathématicien, avec mesure et discrétion, car on aurait tort de s'exposer à un grand mal pour procurer seulement un petit bien à ses parents ou à son pays. Et si un homme vaut plus, lui seul, que tout le reste de sa ville, il n'aurait pas raison de se vouloir perdre pour la sauver. Enfin, comme la constitution de l'univers par l'intelligence, la constitution de l'humanité se développe au-delà de ses résultats immédiats et rejoint son foyer divin. Je ne fais aucun doute que nous ne puissions véritablement aimer Dieu par la seule force de notre nature. En effet, notre connaissance semble se pouvoir accroître par degrés jusqu'à l'infini, et, celle de Dieu étant infinie, elle est au but où vise la nôtre. Si nous prenons garde, d'un côté à notre petitesse, et de l'autre à la grandeur de toutes les choses créées, en remarquant de quelle sorte elles dépendent de Dieu, et en les considérant d'une façon qui ait du rapport à sa toute-puissance, sans les enfermer en une boule, comme font ceux qui veulent que ce monde soit fini, la méditation de toutes ces choses remplit un homme qui les entend bien d'une joie si extrême que tant s'en faut qu'il soit injurieux et ingrat envers Dieu jusqu'à souhaiter de tenir sa place. Il pense déjà avoir assez vécu de ce que Dieu lui a fait la grâce de parvenir à de telles connaissances, et se joignant entièrement à lui de volonté, il l'aime si parfaitement qu'il ne désire plus rien au monde, sinon que la volonté de Dieu soit faite. Ce qui est cause qu'il ne craint plus ni la mort, ni les douleurs, ni les disgrâces, parce qu'il sait que rien ne lui peut arriver que ce que Dieu aura décrété. Car il sait que rien ne peut lui arriver que ce que Dieu aura décrété. Et il aime tellement ce divin décret il estime si juste et si nécessaire, il sait qu'il en doit si entièrement dépendre que, même lorsqu'il en attend la mort ou quelque autre mal, si par impossible il pouvait le changer, il n'en aurait pas la volonté. Et encore ici, par une réserve tirée de son fond d'optimisme radical, Descartes tient à corriger ce que l'expression pourrait avoir de trop absolu. Mais s'il ne refuse point les maux ou les afflictions parce qu'ils y viennent de la providence divine, il refuse encore moins tous les biens ou plaisirs licites dont il peut jouir en cette vie parce qu'ils en viennent aussi. Et les recevant avec joie, sans avoir aucune crainte de maux, son amour le rend parfaitement heureux. La plupart des commentaires de Descartes ont été des philosophes de profession qui n'ont guère lu que par distraction les essais de Montaigne. Ceux de Montaigne ont été le plus souvent des hommes de lettres qui ont reculé devant la méditation des essais scientifiques de Descartes. C'est pourquoi n'ont pas toujours été suffisamment mis en relief les rapports de solidarité, tout à la fois et d'opposition, qui nous ont paru exister entre les deux œuvres. Et cependant, ce qui s'y trouve engagé, c'est le passage de certains états de civilisation à un stade différent. En un sens, réforme et renaissance procèdent d'une aspiration commune, qui aurait dû les rendre capables de se soutenir mutuellement, puisqu'elles ont l'une et l'autre souci de retrouver la pureté des sources. En un autre sens, elles sont vouées à se combattre, condamnées à se paralyser, puisque leurs bases de référence sont diverses et incompatibles. Quel effet a eu la prétention de la réforme à recueillir directement la parole du Christ, sinon de renforcer la malédiction dont est frappée la raison soulevée contre soi? J'ai vu en Allemagne que Luther a laissé autant de divisions et d'altercations sur le doute de ses opinions, et plus, qu'il en est mu sur les Écritures saintes. Et le retour à Socrate n'a pas meilleur sort que le retour à Jésus. Nulle particulière qualité n'enorgueillira celui qui mettra quand et quand en compte dans la parfaite et faible qualité autres qui sont en lui, et au bout, la nihilité de l'humaine condition. Parce que Socrate avait seul mordu au précepte de son Dieu de se connaître, et par cette étude était arrivé à se mépriser, il fut estimé seul digne du surnom de sage, qui se connaîtra ainsi qu'il se donne hardiment à connaître par sa bouche. Sur le plan religieux comme sur le plan profane, il semble que l'Occident européen soit décidément à bout de souffle. Le verdict de mort sera définitif, à moins de reconnaître que l'erreur et le péché de l'humanité durant le XVIe siècle, comme durant le Moyen-Âge, aient été précisément de chercher dans son passé la voie du salut. Le colloque de Descartes et de Gassendi est singulièrement suggestif sur ce point. Vous devriez vous souvenir, ô cher, que vous parlez ici à un esprit qui est tellement détaché des choses corporelles, qui ne sait pas même si jamais il y a eu aucun homme avant lui, et qui, partant, ne s'aimait pas beaucoup de leur autorité. Gassendi appartient encore à l'ère de l'érudition philosophique. L'alternative se pose pour lui de choisir entre la scolastique péripatéticienne et l'enseignement épicurien. Or, le réalisme métaphysique demeura capable de franchir la distance qu'il a imaginée entre le sujet connaissant et l'objet connu. Aristote lui-même aurait avoué que « la vue de notre jugement se rapporte à la vérité comme fait l'œil du chat-huant à la splendeur du soleil ». Mais il appartient au spiritualisme de surmonter l'obstacle en rectifiant la position du problème. Lorsque Gassendi propose naïvement l'exemple de l'œil qui ne se peut voir si ce n'est dans un miroir, il suffit à Descartes d'une brusque réplique pour découvrir toute la profondeur de la métaphysique nouvelle. Il est aisé de répondre que ce n'est point l'œil qui se voit lui-même, ni le miroir, mais bien l'esprit, lequel seul connaît et le miroir, et l'œil, et soi-même. L'esprit ainsi conçu n'est pas une partie de l'âme. Il est cette âme tout entière qui pense, et qui, prenant conscience des ressources infinies de son intimité, en fait jaillir l'univers de la connaissance et de l'action. Jamais la confiance de l'homme dans sa puissance créatrice ne s'est affirmée comme par ces lignes du traité des passions de l'âme, publié par Descartes l'année qui précède sa mort. Le libre arbitre nous rend en quelque façon semblables à Dieu, en nous faisant maître de nous-mêmes, pourvu que nous ne perdions point par lâcheté les droits qu'il nous donne. Cette déclaration est utile à relever, parce qu'il nous semble que l'œuvre de Blaise Pascal se situe exactement aux antipodes, pour constituer le troisième acte du drame que nous étudions aux origines de la pensée française. Du point de vue religieux comme du point de vue profane, le réalisme va tenter sa revanche sur le spiritualisme par l'avènement d'un génie qui ne le cède en rien à celui de Descartes et qui rencontre sur sa route pour l'invoquer à son profit le témoignage de l'incomparable auteur de l'art de conférer.